Nous allons poursuivre avec la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame, que nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio. Salut Vincent.
Salut Étienne.
À toi. Salut Vincent.
Salut Étienne.
Là, ton micro était éteint.
Bon, c'est bon.
Et à toi la parole.
Oui, alors, quand j'ai appris que l'émission d'aujourd'hui était centrée sur l'April, je me suis dit qu'il y avait matière à prendre le contre-pied de mes chroniques précédentes. Alors en effet, comme le présente la page qui leur sont consacrées sur le site Libre à vous, l'idée de départ de mes chroniques est de partager mon témoignage d'un informaticien « embarqué » entre guillemets, au sein de groupes de néophytes, associations, mouvements, équipes en tout genre, où j'essaye de prêcher la bonne parole du libre. Aujourd'hui, à l'inverse, je vais évoquer mon action d'informaticien, de militant libriste, parmi mes homologues de l'April et d'autres mouvements du libre. Des personnes bien plus au fait des enjeux sociaux et politiques du libre et ou aussi bien plus calées que moi sur de nombreux aspects techniques.
Alors, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué ?
Eh bien, on commence d'abord par tomber de son piédestal. Quand vous êtes le seul à maîtriser l'informatique d'un collectif, vous êtes un peu le prêtre d'une mystérieuse religion antique. Tel Lapiti, vous êtes l'initié seul capable de décrypter la parole de la divinité. La divinité étant ici l'ordinateur. Donc, le code informatique, d'ailleurs, ne serait-il pas le dernier avatar de ces langues liturgiques connues seulement d'une caste de prêtres, dont l'ésotérisme est soigneusement entretenu pour subjuguer les profanes ? Parfois, quand j'interviens sur un ordinateur et que je tape des lignes de code devant son propriétaire, j'ai l'impression qu'il ne me regarderait pas autrement si je tournais un moulin à prière en psalmodiant dans une langue gutturale. Bon, bref. Tout ça pour dire que quand on se retrouve avec d'autres informaticiennes et informaticiens, on est comme un magicien, un condret de prestidigitateur. On sait qu'on peut remiser ses tours de passe-passe s'ils ne feront pas illusion auprès des collègues qui connaissent tous les trucs et astuces pour impressionner le chaland. On ne sortira pas avec des arguments d'autorité. Il va falloir discuter et convaincre.
Et du coup, les discussions ne sont pas faciles ?
Non, disons plutôt qu'elles sont longues, souvent, et un peu laborieuses parfois. En particulier lorsqu'il s'agit d'opérer un choix technique. Tout le charme du logiciel libre, c'est que les solutions sont nombreuses. Pour remplir une même fonction, il existe des logiciels très divers, basés sur des technologies différentes, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Sans compter que quand on administre un système et qu'on veut qu'il soit stable et facile à maintenir, on ne peut pas installer n'importe quoi, n'importe comment sur un serveur. Donc, chaque personne qui participe au débat vient donc avec ses pratiques, son expérience, son angle d'approche et surtout ses détestations et ses marottes. Donc, on comprend facilement qu'avec des passionnés, le débat ne peut être que passionné. Du coup, au sein de l'April et ailleurs, je me suis pas souvent plongé dans l'arène du débat technique, ne me sentant pas la légitimité et la pugnacité suffisantes pour défendre telle ou telle position. Mais au fond, c'est plutôt reposant de se mettre en position d'observateur, et c'est aussi instructif, car certains apports dans le débat nous font découvrir des enjeux et des solutions techniques que l'on ne connaissait pas encore. En résumé, alors que dans les autres lieux où j'interviens, je suis un peu l'informaticien de service avec ce que ça signifie de responsabilité, au sein d'une association libriste, je suis en roue libre et je contribue là où je suis utile. Donc là, je prendrai comme exemple les sites web, puisque mes contributions militantes de l'April ou à Parinux, l'autre association libriste dont je fais partie, ont tourné autour de ce sujet. Il se trouve que j'utilise professionnellement le logiciel SPIP, un logiciel de gestion de contenu site web, mais franchement, c'est parce que je connais que mes quelques expériences sur d'autres logiciels équivalents ne m'ont pas poussé à aller voir ailleurs. Je serais franchement bien en peine de construire un argumentaire démontrant qu'il faut utiliser cette solution et pas une autre. Je n'ai donc pas participé aux débats qui ont conduit au choix final du logiciel pour les nouveaux sites. Mais comme il s'est porté sur SPIP, aussi bien à l'April que chez Parinux, j'ai alors pu apporter ma contribution, qui aurait été d'ailleurs beaucoup plus réduite si le choix s'était porté sur un autre logiciel. Bon, en soi, l'April ne dit de faire pas d'autres associations et mouvements. On peut discuter longtemps, mais in fine, ce sont ceux qui prennent le problème à bras le corps qui remportent la décision. Le Yaka Faucon y est aussi présent qu'ailleurs. Je savais d'ailleurs partie du charme de toute aventure collective.
Super. Merci beaucoup, Vincent, pour une nouvelle superbe chronique qui m'aura beaucoup fait rire, là, notamment sur la magie du logiciel. Et moi, ce que j'aime bien aussi avec l'informatique, c'est que c'est un côté magique, notamment pour des non-techniciens comme moi. Et c'est important d'avoir de la magie dans la vie. Sinon,
c'est vrai.
Alors, on sait donc que tu es informaticien, libriste, ça c'est une évidence. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, maintenant qu'on a le temps de discuter aujourd'hui ?
Oui, avec plaisir. En fait, je me présente professionnellement comme concepteur-codeur de logiciels libres. Ben, je suis à mon compte. Enfin, j'ai ma petite structure qui s'appelle Exemol, mais je suis tout seul. Et je travaille surtout avec un client qui est la Fondation Charlotte Palmeyer pour le progrès de l'homme. D'ailleurs, souvent, on m'associe à cette fondation, bien évidemment, mais je n'en fais pas partie officiellement. Mais bon, comme je gère justement toute la partie magie, c'est-à-dire à la fois le système de mémoire interne et puis dès qu'il y a un problème informatique, c'est moi qui m'y colle. Je suis très associé à la FPH, ce qui est le petit nom de la fondation Charles-Paul Meyer.
Oui, j'en reparlerai un peu plus tard, mais effectivement, il y a aussi une histoire un petit peu entre l'April et le local de cette fondation et la fondation. Oui. Alors, comment as-tu rencontré l'April ?
Alors, en fait, ça date d'il y a très longtemps, enfin, au milieu des années 2000, et à l'époque, si je me posais la question de comment libérer mon logiciel. Alors, je dirais que maintenant, je ne poserai pas la question tellement il y a de ressources sur le web, mais au milieu des 2000, c'était moins répandu. Je voyais pas trop comment procéder. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à faire, comprendre les licences et tout. Et j'avais posé la question à quelqu'un, c'était Denis Pansu qui travaillait à la FING à l'époque, s'il connaissait des gens dans le monde du libre francophone, parce qu'il y avait aussi ça qui importait, s'il pourrait me donner des conseils. Et c'est comme ça qu'il m'a fait rencontrer l'April. Et donc d'ailleurs, c'est donc il m'a aidé à libérer mes logiciels, et ensuite je suis devenu adhérent de l'association.
D'accord. Donc tu étais libriste ou tu commençais à devenir libriste, et c'est dans ce cas-là que tu as rencontré l'April, ou c'est au contact, plutôt que d'être au contact de l'April, et tu es devenu libriste
C'est-à-dire que j'étais utilisateur de logiciels libres. Et donc j'en profitais, donc j'avais une dette vis-à-vis du monde du logiciel libre, et donc se posait la question de libérer, mais j'étais pas encore finalement je ne savais pas quel était l'acte à faire pour devenir officiellement libriste. Ne serait-ce pour comprendre, maintenant on a tous les dépôts, toutes les forges de logiciels, où on a, en fait, c'est en un clic, que ce soit les plateformes comme Framagit ou la forge du Chapril ou d'autres choses, il y a toute cette habitude de transmettre son code sur un dépôt qui est vraiment entré dans les mœurs. En 2005, c'était beaucoup moins répandu. On avait moins l'habitude. J'utilisais pas encore un logiciel de gestion de suivi de version. Je pense que je devais faire mes sauvegardes de manière assez peu sophistiquée. Et à l'époque, d'ailleurs, l'April m'avait orienté vers la plateforme de l'Adulacte, et c'était une des rares plateformes francophones pour déposer du logiciel. Donc au fond, je me faisais aussi une grande une grande impression, enfin, j'ai l'impression que c'était un énorme palier de devenir libriste, alors qu'en fait maintenant, en un clic, un choix de licence et c'est bon, quoi.
Alors, je précise que l'Adulacte, donc une association qui promeut le logiciel libre pour les collectivités territoriales, plus spécifiquement pour les collectivités, et effectivement elle offre des services techniques et notamment une plateforme. Tu as parlé de dépôts, de forges, c'est des plateformes techniques pour créer du logiciel libre à plusieurs collaborativement.
Oui, c'est tout un mécanisme qui permet de facilement transmettre son code, puisqu'il va en particulier, une manière de sauvegarder, de le rendre public, de le rendre consultable, avec, ce qui est très important en informatique, un suivi de l'historique de toutes les modifications qu'on fait. Ce que, un peu quand on va voir l'historique de Wikipédia, où on voit tout l'historique d'une page, on dit, bah, il y a un telle personne à rentrer telle phrase à tel moment. Bah, pour ce qui est du code informatique, c'est la même chose. On voit, une telle personne a fait cette modification. Donc, c'est très important pour le suivi. Et en plus, après, autour de cet outil-là, il y a beaucoup d'autres outils qui sont greffés, comme un suivi des demandes de nouvelles fonctions, des rapports de bugs ou des choses comme ça, ou tout un système de documentation qui sont des outils très utiles et rassemblés à un ancien endroit. Et ça permet de comprendre la vie d'un logiciel, quelle est sa feuille de route et des choses comme ça.
Alors pourquoi tu milites pour Libre? Parce que pourquoi c'est important pour toi? Parce que j'ai l'impression que c'est pas seulement une question technique, du coup.
Non, alors il y avait ce que j'ai évoqué, il y avait au début, je crois qu'il y a un peu une dette à payer, parce qu'au fond, ce que je suis capable de faire, c'est grâce à tous les logiciels libres existants. Si je fais la somme de toutes les licences qu'il faudrait payer aussi pour mon travail, pour ne serait-ce que pour pouvoir travailler, ben je crois que ce serait un budget très conséquent. Alors comme j'ai pas les moyens de faire des dons à tous les projets libres que j'utilise malheureusement, mais déjà en libérant mon code, je paye une partie de ma dette à tout ce travail qui me permet de voilà d'utiliser au quotidien. Après, l'autre aspect très important pour moi dans le libre, c'est la pérennité. Ça, c'est une question, un enjeu. Au fond, j'ai envie de dire, j'ai la chance de pouvoir faire du libre aussi parce que je suis payé pour. Dans le sens, au début, moi, j'ai commencé, je devais faire l'outil interne de la Fondation Charles-Paul Meyer. Et c'est après, en discutant, on s'est convaincu qu'il fallait libérer le code. Donc il n'y a pas eu de problème pour les convaincre en termes de valeurs de partage, hein, on est bien sûr c'est des valeurs qui sont communes, mais il y a aussi cette idée de pérennité, de dire bon en le diffusant justement sur les forges, sur les dépôts, c'est comme ça qu'on garantit que le code sera réutilisable et sera pérenne. Maintenant, j'ai vu, moi j'avais déposé sur Framagit, je suis allé sur le site Software Heritage, et hop, j'ai vu que mon code était là, ça fait plaisir, on dit c'est quand même une garantie en plus, hein. C'est tout bêtement de sauvegarde aussi de tout son travail d'une vie d'informaticien, c'est important qu'il soit sauvegardé, et puis comme on dit, si un jour j'ai une crise mystico-écologique et je vais dans le Grand Nord cohabiter avec des grizzlies, au moins mon client aura accès à mon code et pourra continuer mon travail si jamais un coup de patte malencontreux de grizzly joueur faisait que j'étais plus en capacité.
Alors, je vais paraître une blague privée, mais c'est vrai qu'on parle de bus factor parfois, il y a aussi le grizzly factor.
Ouais,
je
préfère parce que bus factor ça me gêne, parce qu'à Paris j'ai jamais eu de problème à vélo avec le conducteur de bus, ils sont charmants, un grizzly joueur, ça
je précise juste, ouais, le bus factor c'est cette idée que moins il y a de personnes sur qui repose un projet, plus le projet est fragilisé, si une de ces personnes malheureusement
fait écraser par un bus.
Voilà, prend un grizzly. Bref.
Ouais, voilà.
Et du coup, ça fait écho avec une remarque effectivement de Fred sur le salon Libre à vous, parce que tu parlais de SPIP, et tu disais, puisque c'était SPIP, j'ai pu contribuer à l'April, mais aussi à l'inverse, c'est que du coup, le choix de SPIP s'est aussi fait parce qu'il y avait des contributeurs à l'occasion bénévoles, vous étiez plusieurs, donc on peut aussi remercier Jean, Antoine et donc Vincent qui est avec moi, qui ont contribué à la mise en place du site Libre à vous. Et c'est parce que nous avions accès à vos compétences, oui, et que vous étiez prêts à les partager avec nous qu'on a fait ce choix. Donc voilà, l'humain aussi fait partie des décisions ce sens. Je voulais te poser rapidement une question, peut-être, enfin rapidement, prends le temps qu'il faut, mais donc tu as contribué à la mise en place de ce site libreavoue.org, qui moi je trouve une superbe réussite. Graphiquement, je le trouve très beau, et ça, c'est grâce à Antoine Bardelli. Et en tant qu'utilisateur non technicien qui est amené à manipuler, on va dire, de l'information pour mettre en page les sites, je trouve le site très facile à utiliser. Donc, ça, c'est aussi grâce à SPIP. Donc, comment tu as approché? Parce que c'était un sacré chantier. Il fallait migrer d'un site, de l'ancien site, du site de l'April, où nous éditions et nous publions des pages sur les émissions, pour toutes les concentrer sur un nouveau site. Alors, je ne vais pas te demander de faire toute la genèse, mais comment tu abordes un chantier de ce type?
Oui, alors, c'est vrai que sur le site, moi, j'ai pas, sur la partie SPIP, c'est surtout Jean qui a travaillé. Moi, j'ai fait deux choses que j'aime beaucoup par ailleurs et sur lesquelles j'ai travaillé, c'est de partir de l'existant et de voir ce qui était récupérable de manière automatique de l'existant. J'avais fait une chronique sur les copier-coller à une époque. Comment, quand on migre d'un nouveau site à un autre, on peut s'éviter un certain nombre de copier-coller, parce que parfois c'est la seule solution, mais on va essayer de faire. Donc là, moi j'ai fait deux choses. D'une part, effectivement, c'est d'essayer de récupérer les pages, le contenu des pages existantes sur le style de l'April, pour les intégrer dans SPIP, ce qui a fait qu'en fait l'archive des émissions n'a pas été perdue. On aurait pu aussi dire, bon, on fait un nouveau site, il commence à l'émission 50, et puis le reste, on le laisse traîner quelque part dans, sur l'ancien site. On l'a dit, on reprend à partir même de l'émission 1. Donc là, c'est d'écrire, alors là, c'est des petits scripts qui vont voir les pages et qui essayent d'extraire des pages l'information qui nous intéresse. De ça. Et la deuxième partie, c'est dans tout le processus de production du... De comprendre, il y avait aussi comprendre le processus de fabrication d'une page d'un site à partir du fichier de podcast. Comment, parce que le fichier de podcast, il est découpé pour avoir des podcasts différents suivant le... Et là, il y a une procédure avec un fichier JSON qui partage. Et là, c'était, comme il y avait ce travail fait, de pouvoir le récupérer de manière automatique dans SPIP pour là aussi éviter la double saisie et pas avoir à retaper à chaque fois, puisque je dis ça parce que sur la page d'une site d'émission, il y a l'émission principale et puis il y a les chapitres. Et c'est ce chapitrage qu'il fallait récupérer pour pouvoir le réutiliser et le valoriser aussi dans le lecteur, d'ailleurs le lecteur Podlove où il y a ce chapitrage. Et donc, comme il était déjà fait, dans le cas du découpage du fichier de podcast, il fallait faire en sorte qu'il soit, que ce travail soit réutilisé automatiquement.
Ok. Bon, bah, en tout cas, bravo, parce que c'était un gros chantier et le résultat est super. Avant qu'on se quitte, alors tu m'as dit qu'effectivement, donc on a évoqué avec Isa les journées du logiciel libre, et je crois que toi aussi tu as une actualité par rapport à cet événement.
Oui, oui, bah, juste dire, enfin, moi j'y vais aussi, mais je serai la journée de samedi. Alors moi j'ai une. Je fais ma pub.
Ah, vas-y.
Voilà. Je participe à une conférence, je crois que c'est à 14h, c'est avec Ritimo, et c'est sur la question de la mémoire militante. C'est un peu d'ailleurs lié aux travaux que j'aime bien de comment on récupère des données, on essaye de les conserver. Y a trop de sites qui disparaissent du jour au lendemain parce que c'est plus maintenu, et ça c'est vraiment dommage parce qu'on perd aussi de la mémoire dans tous les mouvements sociaux là-dessus. Et donc ça c'est une réflexion qu'on a depuis longtemps avec Ritimo, et là les journées du logiciel libre vont être l'occasion de discuter de ça. Voilà, et puis j'ai vu qu'aussi Isabella avait une conférence sur la radio libre à vous. Alors j'irai je tiendrai compagnie. Alors je sais pas si à la fin il y aura une séance d'autographe pour.
On peut l'envisager.
Je peux le faire tout de suite, autographe.
Voilà.
Ok, super. Et non, un sujet très intéressant, c'est vrai que quand on défend la libre circulation des savoirs, des connaissances, leur mémoire est aussi quelque chose d'essentiel. Ouais. Parce que moi, je ne serai pas à Lyon, mais si c'est disponible, je pense qu'on pourra peut-être suivre à distance. Il faudra que je me renseigne. Je ne sais pas si tu le sais.
Oui, alors à distance, je ne sais pas. En tout cas, ce sera enregistré.
Ce sera enregistré.
Alors à distance, on va voir. Peut-être maintenant, avec toutes les pratiques, effectivement, liées au confinement, c'est aura devenu. automatique.
Oui, c'est sûr.
De mettre en place ce type d'outils.
En tout cas, merci beaucoup, Vincent, pour ce temps d'échange, pour ta chronique. Et puis, je te dis au mois prochain.
Oui,
pour
tout à fait.
Prochaine chronique.